Prêtre du diocèse du Mans, Don Guéranger, né au début du XIXe siècle à Sablé-sur-Sarthe. Il grandit tout près de Solesmes et c'est là que se trouve un prieuré désaffecté depuis 1790, puisque, vous le savez, par un décret du 13 janvier de la même année, les monastères avaient été supprimés en France. Don Guéranger passe donc son enfance dans ce contexte. C'est sans doute là que la Providence commence à faire son œuvre, puisque très vite après son ordination, Don Guéranger se lance dans un chantier considérable, refonder l'abbaye de Solesmes et restaurer la vie bénédictine en France. 150 ans plus tard, la vie de Don Guéranger est jouée en la basilique Saint-Denis et à Sablé-sur-Sarthe. Yves Voutot est l'auteur de la pièce qui retrace la vie de cette figure spirituelle. Il nous explique comment la Providence a accompagné Don Guéranger malgré les défis à relever et les combats à mener. Yves Voutot.
La Providence l'a vraiment accompagné, parce qu'il est, on lui fait sauter 2 années de théologie. Alors il est ordonné assez rapidement, à 22 ans, et il est secrétaire de l'évêque émérite de l'époque, Monseigneur de la Mirmaurie, qui lui était parisien. Or, Don Guéranger était un sabolien, fils de professeur de la classe moyenne de l'époque. Et le fait d'être secrétaire de cet homme de l'aristocratie parisienne, Monseigneur de la Mirmaurie, qui connaissait le tout Paris, va lui ouvrir des perspectives énormes. Ensuite, deuxièmement, c'est qu'il a eu accès aux grandes bibliothèques parisiennes, les publiques comme les privées, celles des Jésuites, celles des Jésuites à côté de Paris. Bon. Donc, parce que déjà, la passion de la liturgie, de la patristique, animait son cœur à 22 ans. Il y a même un texte, le premier texte, c'est déjà toute la doctrine des institutions liturgiques. Donc, il est quand même très... Ensuite, il fait, une fois ordonné, à 23 ans, il fait un voyage sur le tombeau de Saint-Martin. C'est là qu'il a la vocation monastique. Et puis, il rentre chez lui. Ah ben oui, ben c'est là que je vais fonder. On est en 1833, il a 28 ans, il a rassemblé quelques prêtres séculiers, plus âgés que lui, très importants. On lui a dit de ne pas faire comme ça, hein, parce qu'on lui a dit, il prend conseil, c'est passionnant, auprès d'un abbé, du père abbé de la Trappe, Don Saulnier, de Beauregard, qui lui dit non, surtout pas ça. Vous allez en Italie, il y a encore des bénédictins, vous faites un noviciat, et là, vous avez une expérience, vous pouvez, avec l'autorité de l'expérience, rassembler autour de vous. C'est très dangereux de rassembler à égalité des gens, ça va vous nuire. C'est ce qui s'est passé, c'est raconté dans la pièce. Voilà.
Bon. Alors à ce moment-là, dans la pièce, vous l'expliquez bien, on le voit bien, sa jeunesse, son manque d'expérience aussi, lui sont reprochés. Ça ne s'est pas fait comme ça. Enfin, il y a eu des luttes, des défis qui sont venus de la petite communauté naissante.
C'est ça, le grand combat de la fin des années 30.
Don Guéranger avance pas à pas malgré les doutes émanant au sein même de sa communauté, mais il a quelques atouts de son côté et notamment le soutien de son évêque alors que ses frères lui reprochent sa jeunesse, sa joie et sa liberté, des traits de caractère qui vont lui permettre d'aller jusqu'au bout. Yves Voutot.
Effectivement, Don Guéranger était inventif, surprenant, imprévisible et facétieux. Il était drôle. Il faisait des blagues. En fait, c'est tout le problème des fondateurs. Hein, c'est des gens iconoclastes et d'une certaine manière un peu invivables. Parce que Don Guéranger, il fallait le suivre. Voilà. Mais dans les Manuels Pierre Gossa, c'était pareil. Sainte Teresa de Calcutta, mais je veux dire des Jesus d'Avila, c'est pareil. C'est des gens presque, je dirais, extravagants. Et lui, c'était le cas. Donc c'est un peu gênant. Enfin, voilà, la révolte de ses frères moines vient de querelles. Ils ne sont pas faits pour la voûte monastique, pour la plupart. Mais aussi, il faut voir que Don Guéranger, comme tous les fondateurs, a pris des libertés, d'ailleurs, avec la règle. Il devait écrire beaucoup et il n'allait pas le matin aux matines, etc. Bon, et puis, je ne sais pas comment dire. Si on se met à sa place, en fait, dans la vie monastique, il faut faire corps, c'est presque, il y a une unité presque biologique, hein, d'accord. Et puis dans la règle, c'est pas rien. Et lui, évidemment, c'est le début de la pièce où il dit l'esprit de la règle, en gros. Bon, c'est facile à dire, c'est très difficile à vivre. Voilà.
À ce moment-là, au tout début, est-ce qu'il a le souhait que la liturgie et que le chant liturgique en particulier prenne cette place? Parce qu'on voit dans la pièce que finalement, la prière communautaire et la liturgie sont un peu le lien, construisent vraiment le lien fraternel, construisent la communauté des frères, en fait.
Il voyait bien que la liturgie s'effondre, c'était important. Mais ça s'est déclaré de plus en plus avec la vie monastique, en fait. Hein. Néanmoins, il avait bien vu que c'est dans la prière qu'on devient des frères. Et ça, c'est que la prière est un lieu théologique. C'est très important que l'Église se reçoit. Nous recevrons comme frères du Christ, unis au Père, dans la liturgie. Ça, c'est même étonnant, toujours. Grande intuition qu'il a reçue très jeune, quand même. Mais une chose est de le penser, une chose est de le vivre. Voilà. D'où l'obsession de l'unité, évidemment.
Il y a plusieurs choses qui sont marquantes dans cette vie de Don Guéranger que vous relatez, et puis dans la vie de cette communauté bénédictine qui naît et qui renaît. Quoi. C'est aussi le regard qu'on porte sur les frères converts. Et c'est très beau dans la pièce de voir comment Don Guéranger finalement nous invite à poser un regard différent sur ces frères converts.
Exactement. Il avait même conçu, il a écrit non pas une règle adaptée, mais quand même quelque chose pour les frères converts. Il les respectait beaucoup. La scène qu'on voit avec le petit moine là et tout, les paniers, bref, parce que lui était un homme interroi. D'ailleurs, Don Guéranger avait l'accent sartois. Hein, bon, il connaissait bien le peuple. Alors, il a eu cette réputation d'être l'ami de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, qui certes l'a aidé. Attention, hein, Madame Strychnine et d'autres, hein, Montalembert et tout ça. Néanmoins. Et ça, on l'a su qu'à sa mort. Les gens, vraiment, sont venus. Le petit peuple, comment il a fait pour connaître tout ça? Parce qu'il se couchait à 2h du matin pour écrire ses livres, pour payer les dettes de Solesme, jusqu'à sa mort. Ça, c'est... Hein, d'où le fait aussi qu'il ne pouvait pas aller au vigile et au matin. Bon, voilà. Donc, alors, la vocation des converts, ça prouve bien que ce n'est pas que la vocation monastique n'est pas une vocation intellectuelle. Alors qu'au début, c'était quand même ça, Don Guéranger. C'était, au fond, comme il dit, disciple de la Monnaie, c'était pas unifié. Bien sûr, il y avait la prière, mais il y avait la formation intellectuelle. Il avait un tel désir de former les clercs, hein, d'accord. Alors qu'effectivement...
Cette envie de faire une école de prière,
oui,
au début.
Oui, école,
pas tout à fait
aussi,
la même chose.
Mais aussi des études, liturgiques, patristiques, et puis doctrinales. Bon. Et ensuite, il a ajusté voilà, il s'est ajusté. Et puis, les frères l'ont converti. Ben oui, il y a des moines qui ne sont pas intellectuels et qui portent le monastère. Ça, c'est tout le monde vous le dira.
On l'entend, ce lien avec les habitants de Solesmes, du village, des alentours. Ça aussi, c'est important. Les amitiés aussi, les amitiés qu'il a pu construire avec des personnes qui sont à l'extérieur. Ça veut dire, et c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, qu'une aventure religieuse, elle ne peut pas se faire en dehors du monde.
Alors, les moines sont séparés, ils sont pas en dehors. Hein, voilà, on protège. Ben c'est ça. Hein. Donc séparés, mais voilà, parce que la prière c'est exigeant, cette vocation donnée à la prière. Est-ce qu'on en prend conscience? Donnée à la prière. Au début, c'est doux, ils voient pas ça, le cilice que c'est, l'habitude, l'usure de l'habitude de la prière, d'accord? Et ils prient ils prient gratuitement, certes pour le salut du monde et de l'Église, du monde, bon. En union avec l'Église du ciel, il prie Dieu, point. Mais c'est au-delà de l'envie à un moment donné. C'est là où c'est l'intuition d'Enguerrand-Gérienne qui est très profonde. C'est que, certes, la prière est élan du cœur vers Dieu. Ça, c'est toute. Il ne renie pas la dévotion moderna, chère à Sainte Thérèse d'Avila, aux Jésuites, l'élévation du cœur vers Dieu, l'union du cœur à Dieu. Bon. Néanmoins, il remet dans l'axe l'oraison. Les plus grandes grâces d'oraison sont données parce que l'âme se laisse instruire par la prière de l'Église. Donc il y a une objectivité, si vous voulez. C'est le sens objectif de la prière qu'il a eu. Ça, c'est très, très fort. Hein, et dans notre Église d'aujourd'hui, il faudrait le rappeler. Voilà, hein, ça c'est... C'est énorme ce que je dis, mais c'est fondamental.
Qu'est-ce que justement cette vie spirituelle, cette figure spirituelle de Don Guéranger nous dit de l'Église aujourd'hui?
Ben, y a l'unité de la prière. Je vais dire ça comme ça, et ça c'est très important. Tu fais pas ce que tu veux quand tu pries, en fait. C'est pas d'abord ça. Alors oui, certes, Dieu va se servir de notre spontanéité. Et l'Esprit Saint s'est ajusté à l'évolution, l'émergence de l'individualité, c'est la dévotion moderne, encore plus avec les communautés charismatiques des années 70. D'accord. Mais même l'intuition de Pierre Goursat, c'était pas seulement la preuve. Il y a la louange charismatique et il y a l'adoration qui vient, d'accord, informer cette subjectivité. Donc Don Guéranger, lui, c'est quoi? Et pour aujourd'hui, c'est que ce n'est pas moi qui ai l'initiative de ma relation à Dieu. Un. Et de toi, et première, d'accord, bon, ça on peut comprendre. Mais ce qu'on comprend mal, c'est que l'initiative de Dieu vient aussi, passe par, par des frères qui m'ont précédé, qui s'appellent l'Église. D'accord ? Et ça, c'est ça, il faudrait le retrouver.
Don Guéranger, un moine obsédé par l'unité, et dans cette quête de l'unité, la prière, vous l'avez compris, joue un rôle essentiel, mais il y a aussi l'amour fraternel, autrement dit, l'amitié.
L'amitié, ça c'est... Voilà, la sainteté, les grands saints ont eu des amis, voilà.
Et y compris en dehors de l'abbaye.
Oui, oui, c'est, ça c'est ce qui me touche le plus. Il était un grand ami. Avec Madame Srichin, ça c'est parce que cette femme est très importante pour l'histoire du catholicisme français. Bon bref, donc ça, et tous deux ont été amis. Quand il l'accueille, quand on la voit revenir, en fait, j'ai pas tout. Mais Don Guéranger tremble et pleure parce que voilà, ça me touche beaucoup. Et les gens sentaient. Pourquoi c'est un grand père spirituel au niveau de l'accompagnement? C'est qu'il était affectueux, tout en étant très pur de cœur. Très important, l'amitié avec Sainte-Cécile, sa fille spirituelle, ça fait du bien de voir que tout s'est bien passé. Donc c'est ça, l'amitié. Ça me touche énormément. Le sens de... C'est logique.
Cette amitié est un des fils conducteurs de la pièce écrite par Yves Voutot. Émilie Martin joue le rôle de celle qui fut à la fois comme une mère et comme une fille spirituelle, Madame Srichin. Émilie Martin nous parle de ce lien tout à fait particulier.
Alors j'ai joué le rôle de Madame Srichin, qui était une comtesse russe, une grande amie de Don Guéranger. Et en fait, c'est une amitié complètement improbable, puisque Madame Srichin était une femme qui vivait à Paris, qui avait un grand salon, elle recevait des intellectuels, et elle a tout de suite cru dans le projet de Don Guéranger.
Alors que ce projet, au début, n'était pas ficelé, vraiment. Il y avait une intuition, un désir, mais il n'y avait pas de vrai projet au tout départ.
Tout à fait, et surtout... Il n'y avait pas d'argent. Donc Don Guéranger est arrivé à Paris en cherchant des soutiens et il a rencontré Madame Srichin qui n'a pas donné beaucoup d'argent elle-même, mais en tout cas qui lui a promis de faire son possible pour, par l'intermédiaire de bons de souscription, obtenir de l'argent pour Solem, pour sa fondation. Madame Srichin a toujours été présente, alors elle était plus âgée que Don Guéranger, mais elle a toujours soutenu Don Guéranger, et surtout au moment de la banqueroute, en fait, elle a sollicité à nouveau tous ses contacts, toutes ses amies, les amies de qu'elle fréquentait à Paris, pour aider Don Guéranger. Et en fait, je dirais que c'est plus qu'un soutien financier, c'était une véritable amie. Il y avait une relation épistolaire. Elle est venue une fois rendre visite à Don Guéranger à Solem, mais ils s'écrivaient quasiment tous les mois, en fait.
Est-ce qu'il y avait un lien spirituel? Est-ce que Don Guéranger était vraiment son ami uniquement ou aussi son accompagnateur spirituel?
On pouvait dire qu'il était son accompagnateur spirituel. En fait, elle le considérait comme on l'entend dans la pièce. Elle dit à un moment donné, Madame Srichin, vous me proclamez mère, mais je suis aussi l'enfant de mes enfants. C'est-à-dire que Don Guéranger était pour Madame Srichin à la fois un père spirituel, mais elle le protégeait comme un enfant.
Dans cette pièce que vous avez investie avec toute la troupe, qu'est-ce que vous avez appris de Don Guéranger, vous qui habitez dans le coin, dans le pays sabolien, dans le pays de Don Guéranger? C'est une figure dont vous entendez parler depuis toujours. Est-ce que vous avez découvert des facettes de cette figure spirituelle que vous ne connaissiez pas?
Alors oui, d'abord, Don Guéranger, on en entend parler. Il y a des rues, des places à Sablé qui portent son nom. Mais on ne connaissait pas cet homme. Alors moi, ce que j'ai appris... D'abord, ce sont les difficultés de la fondation, les difficultés dont on a parlé, financières, mais aussi, à un moment donné, cette conspiration des moines contre lui, les soutiens qui n'ont pas toujours été non plus simples au niveau de l'Église. Et puis, on a appris aussi qu'il avait beaucoup œuvré pour l'unité liturgique. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, il a su faire bien et vite.
La pièce de théâtre écrite par Yves Voutot et mettant en scène la vie de Don Guéranger a été jouée il y a quelques jours pour la première fois en la basilique Saint-Denis. Elle évoque la foi et l'audace d'une figure spirituelle qui a marqué un territoire et sûrement, plus qu'on ne le pense, l'Église de France. Enfin, l'histoire de Don Guéranger nous encourage à puiser dans nos histoires locales un élan missionnaire. comme par exemple dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, où nous avons la figure bien connue de Sainte Bernadette, mais aussi le père Pascal Vergès, qui sera béatifié le 13 décembre à Notre-Dame de Paris.